Monsieur.
Quelquefois, à force d'état de l'exposé du docteur Renaz qui nous écrit de cerveau,
oui, alors là, je n'ose pas établir la corrélation avec ce qu'il a dit. C'est une question qui n'est pas facile. Hein. J'aimerais bien, moi, comme un scientifique chrétien c'est solide, attaque cette théorie que le docteur Nahas a évoquée, qui a reçu une grande publicité de la part d'Arthur Koestler en particulier. J'ai lu divers livres qui s'appuient là-dessus, mais il me semble que pour vraiment la réfuter, il faudrait que j'aie une compétence dans le domaine de la biologie, de la physiologie, je n'ai pas. Et j'aimerais bien que quelqu'un de compétent scientifiquement puisse s'y attaquer.
Tu m'as indiqué que le siège du bien-être se trouvait dans le
paléologie. Oui, l'impression de bien-être, les instincts, le sens de plaisir, oui. Mais je crois qu'il serait risqué, parce que d'abord cette théorie, nous ne savons pas si elle est vraiment assurée, il serait risqué d'essayer de faire des corrélations avec les données bibliques, essayant de cerner les données bibliques. En tout cas, elles ne correspondent pas à la trichotomie mystique. Vous voyez, en tout cas pas. Alors, donc pour ce texte, je dirais problème résolu. Alors maintenant, les textes que les trichotomistes invoquent, il y en a un peu plus, sont ceux où âme et esprit paraissent opposés ou distingués. C'est ainsi qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des textes où, à première lecture, ce ne sont pas des textes qui présentent toute la structure de l'homme, alors je n'en ai pas parlé encore, mais où âme et esprit paraissent nettement différents. En fait, il y en a quatre, et c'est le quatrième qui est le plus important, de très loin. Mais enfin, je vais essayer de les signaler tous. Il y a trois textes, donc avant ce quatrième, où c'est l'adjectif spirituel et l'adjectif psychikos, donc animal de l'âme, où ces adjectifs sont employés. Vous avez le texte de 1 Corinthiens 2, on y revient encore, c'est 1 Corinthiens 2, qui est un passage clé dans le débat, où l'apôtre dit, au verset 14, que l'homme psychikos, l'homme psychique animal de l'âme, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui folie, et il ne peut les connaître, parce qu'on en juge spirituellement. Mais l'homme spirituel, pneumatikos, investigue tout, etc. Voilà. Opposition entre un homme psychikos et un homme pneumatikos. Semblablement dans la même épître, au chapitre 15, dans la discussion sur la résurrection, nous avons au verset 44, s'il y a un soma, un corps psychikon, un corps psychique animal, il y a aussi un corps pneumatikon spirituel. Car selon qu'il est dit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce n'est pas le pneumatikon, le spirituel qui est premier, mais le psychikon, ensuite le pneumatikon. Et le troisième texte se trouve dans l'épître de Jude. Où il nous est dit de ces hommes que condamne l'auteur, au verset 19, qu'ils sont psychikoi, ils sont psychiques, n'ayant pas pneuma, n'ayant pas l'esprit. Alors ces passages sont invoqués par les trichotomistes pour dire, vous voyez, l'âme et l'esprit, c'est pas du tout la même chose. Il y a certains hommes qui sont conduits par leur psyché, leur psyché, leur âme, d'autres qui sont conduits par leur esprit, et ça montre bien qu'il s'agit de deux parties différentes. Et d'ailleurs Jude dit psychikos n'ayant pas l'esprit. Alors commençons par ce dernier. On voit tout de suite, je dirais, qu'il ne peut pas s'agir de l'esprit humain. Parce que aucun homme n'est privé de cette partie de son être. Même ceux dont l'esprit est mort ou affaibli ou en sommeil ou que sais-je, comme le disent parfois les trichotomistes, il a toujours l'esprit. Et d'ailleurs, il y a une multitude de textes qui attribuent l'esprit à des incroyants dans la Bible. Alors, l'esprit que n'ont pas ceux que dénonce Jude ne peut pas être l'esprit humain, la composante de l'homme, ce doit être le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'esprit avec une majuscule, voilà comment il faut comprendre. Parce que c'est là qu'est la différence. Tous les hommes ont l'esprit au sens d'une partie de l'homme, mais certains n'ont pas l'Esprit Saint. Et c'est de cela qu'il est question ici. Donc vous voyez ici, on peut dire que la question est réglée. Et on peut même dire que la manière de parler de Jude favorise la dichotomie. Parce que justement, s'il avait considéré que la trichotomie était admise, son langage aurait été un peu équivoque, il aurait prêté à malentendu, alors il se serait retenu. Mais il savait bien qu'il ne risquait pas d'être mal compris, parce que l'enseignement dans les églises, c'était la dichotomie. En ce qui concerne Corinthiens 15, bon, peut-être 1 Corinthiens 2 d'abord, peut-être. C'est plus proche de Jude, j'essaye de procéder par ordre aussi logique que possible. En ce qui concerne 1 Corinthiens 2, je crois qu'on aboutit à la même conclusion. L'esprit qui fait la différence dans ce passage, ce n'est pas l'esprit de l'homme que tous ont et par lequel l'homme se connaît lui-même, chacun se connaît soi-même. C'est l'esprit de Dieu. C'est là le point que souligne l'apôtre à propos de la compréhension des choses spirituelles. Il s'agit d'avoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Au verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. Voilà ce qui est dans le contexte fait un homme spirituel. Donc quand il dit un homme spirituel, il ne veut pas dire un homme qui est conduit par la partie supérieure de son être, il veut dire un homme qui est conduit par l'esprit de Dieu. Pneumatikos veut dire conduit et habité par l'Esprit Saint. Alors de nouveau, il ne s'agit pas de partie de l'homme. Et du coup, psychikos, alors, qui lui est opposé, comme dans Jude, signifie l'homme qui est conduit par sa propre nature, qui est conduit par son être intérieur, qui se conduit lui-même, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Le mot psyché, âme, désignant tout naturellement l'être intérieur de l'homme. Alors, cela peut être d'ailleurs confirmé, et Murray le met en lumière, c'est pas là l'argument spécial que je lui ai emprunté, que je n'avais jamais vu, mais c'est confirmé par l'étude du mot pneumatikos spirituel dans les textes du Nouveau Testament. Vous prenez ces textes et vous verrez que, pratiquement toujours, il s'agit de la possession de l'Esprit de Dieu. Donc c'est si confirmé. Donc il ne s'agit pas du tout de trichotomie. Et si on prend alors 1 Corinthiens 15, pour finir, il ne semble pas s'agir là de l'Esprit de Dieu, mais il ne s'agit pas non plus de deux différentes parties. Quel est le contraste? Le contraste est entre Adam comme âme vivante et le Christ comme esprit vivifiant, le Christ ressuscité. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a un corps qui correspond au premier comme il y a un corps qui correspond au second, un corps psychique et un corps spirituel. Est-ce qu'il pourrait parler comme ça dans l'hypothèse trichotomiste? Moi je crois que ce serait difficile, parce que dans l'hypothèse trichotomiste, Adam, il avait une âme, mais il avait aussi un esprit. Dans l'hypothèse trichotomiste, Jésus a un esprit et a une âme, séparément. Alors dire l'un est âme vivante, l'autre est un esprit, ça ne joue pas tellement bien. Ça ne correspond pas vraiment au langage qu'on attendrait d'un point de vue trichotomiste ici. Et l'intention de Paul n'est pas du tout de séparer entre des parties de l'homme, mais plutôt de souligner deux modes d'existence différents. Quelle est la bonne réponse à mes yeux? Elle s'attache aux connotations des deux mots. Comme j'ai dit, le mot âme veut dire le souffle, mais le souffle de la respiration, de la vie naturelle en quelque sorte. Le mot esprit évoque le souffle volontaire, le souffle qui porte la parole. Et il y a une nuance plus dynamique. Alors, le contraste entre Adam et sa vie naturelle, et le Christ et la vie surnaturelle, peut être évoqué grâce aux connotations différentes, aux nuances qu'il y a entre les deux mots. Ce sont deux mots dont les nuances permettent de les distinguer comme vivants et vivifiants. Au fond, esprit correspond à âme, comme vivifiant correspond à vivant. Adam est devenu une âme vivante, douée de vie naturelle, et c'est à son image qu'ont été ensuite engendrés ses descendants. Le Christ, lui, est en quelque sorte explosion de vie. Il est esprit vivifiant. Voilà, je crois, le pourquoi du changement de mots chez Paul. C'est pas qu'il s'agirait de deux parties différentes de l'être humain, c'est qu'il y a des nuances qui s'attachent différemment, les connotations ne sont pas de purs synonymes. Le mot esprit évoque l'être intérieur de l'homme dans sa puissance d'expansion et de communication. Et c'est ce mot qui convenait beaucoup mieux au Christ en tant qu'il fait rayonner la vie de lui dans son état de ressuscité. Donc le texte ne peut vraiment pas valoir comme preuve de la trichotomie. Alors reste le quatrième. Reste le quatrième qui est Hébreux 4. Un texte qui, avec 1 Thessaloniciens 5, 23, est généralement le texte que les trichotomistes invoquent le plus. Après l'exhortation à entrer dans le repos de Dieu, nous avons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus aiguë que toute épée à deux tranchants et pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et moelles, et juge, stikos, des imaginations ou des conceptions et des pensées du cœur, car il n'y a pas de créature qui ne soit manifeste devant lui, tout est nu et à découvert aux yeux de celui duquel nous parlons, auquel nous avons à rendre compte. C'est une deux traductions possibles. Alors ici, voilà, les trichotomistes disent, c'est évident, il est question de la division de l'âme et de l'esprit, ça montre bien qu'âme et esprit sont deux parties, puisqu'on divise entre elles. Vous voyez la force de cet argument. Alors, de nouveau, il faut dire, ils ont lu trop vite. Ils présupposent une façon de lire qui ne s'impose pas du tout, et qui, en fait, quand on analyse davantage l'ensemble du passage, devient improbable. Il n'est pas dit du tout que la division dont il est question ici soit la division entre l'âme et l'esprit. Pas du tout, il est dit la division de l'âme et l'esprit. Il n'y a pas d'article, en fait, division âme et esprit. Alors, on peut aussi comprendre le point de division interne de l'être intérieur de l'homme, désigné par ces deux termes, âme et esprit, qui sont, sans être pur synonyme, des mots de sens très proches. On peut aussi comprendre comme ça. Et, au moins, a priori, on peut comparer les deux possibilités de lire. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Bon. Et quand on se met alors à scruter les mots et les données de style dans ce passage, on s'aperçoit que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Premier élément, eh bien, ce mot division gouverne non seulement âme et esprit, mais aussi jointure et moelle. Or, ça c'est un langage imagé bien sûr, il n'est pas question de comprendre qu'il s'agit de séparer entre les jointures d'un côté et les moelles de l'autre. Vous ne séparez pas dans un corps, quand vous le disséquez, entre des jointures et des moelles. Ce n'est pas du tout la pensée. Mais les mots jointures et moelles sont là pour désigner le tréfonds de l'être. Ces points les plus secrets et les plus cachés, jusqu'auxquels va la parole de Dieu. Donc il ne s'agit pas, avec les mots parallèles, jointures et moelles, qui tous les deux sont des mots pour exprimer la même pensée, aller au fond de l'être dans ses replis les plus secrets. Il ne s'agit pas du tout de deux parties qu'on va séparer, mais plutôt de la plus profonde intériorité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la vie. Le mot même division, c'est ça ce que j'ai trouvé chez Murray, que j'avais pas vu jusqu'à présent, qui m'était resté inaperçu. Quand on fait une étude de ce mot division, du verbe correspondant, merismos ici, et puis merito autrement, on s'aperçoit qu'il est employé constamment, ça Murray en fait la preuve, pour la division interne, non pas la division entre ceci et cela, mais la division interne, selon l'interprétation donc dichotomiste, et je me défends. Ça, c'était quelque chose qui m'avait échappé jusqu'à présent, et que je dois à cet article de Marie. Troisième élément, si vous lisez toute la phrase de cet auteur, très orateur, qui était l'auteur aux Hébreux, qu'est-ce que vous vous apercevez? Que c'est une technique systématique de sa part d'employer des paires de mots, au moins des paires, synonymes, ou pratiquement synonymes. C'est un trait de son style, mais qui vraiment est martelé autant que possible. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus aiguë que toute épée, distomone et dignoumenos. À deux tranchants et pénétrante. Donc, vivante, efficace, deux tranchants, pénétrante. Jointure et moelle, c'est la même pensée. Critique des imaginations, des conceptions et des pensées du cœur. Et encore deux termes pour toujours la même idée, concept ou pensée. Il n'y a aucune créature qui soit non manifeste devant lui, tout est à nu et à découvert. C'est incroyable, mais on dirait qu'il ne peut pas dire une chose sans employer deux mots pour dire cette unique chose, tout au long. C'est vraiment le procédé systématique qu'il emploie. Alors, quand on a reconnu que c'est le procédé qu'il emploie dans cette phrase, du coup, quand il dit « âme et esprit », il devient hautement probable que c'est de nouveau une paire de deux mots quasi synonymes. Ce qui correspond, ce qui confirme encore la portée des autres arguments. Donc, il me semble que quand on analyse ce texte, non pas superficiellement, en le lisant à toute vitesse, en disant « ah ben oui, il y a une division entre âme et corps, entre âme et esprit », on s'aperçoit qu'il ruine plutôt l'idée que âme et esprit seraient deux parties différentes. Monsieur Cayol ?
Et en grec, c'est traduit comment ?
En quoi ?
En grec.
Eh bien, c'est sur le grec que je m'appuie, n'est-ce pas ? Le grec n'est pas une traduction. C'est l'original. Oui. Oui. Donc, vous avez ces paires de synonymes tout au long du texte grec. Alors, ça, c'est pour les textes qui étaient invoqués à propos d'une division entre âme et esprit. Reste le dernier. Non pas sur ce sujet, mais pour l'ensemble, 1 Thessaloniciens 5:23. Le texte que nous avons évoqué au début, le seul qui semble suggérer une division triple de l'individu. C'est le seul qui nous reste. Et à propos de ce passage, alors je dirais franchement que s'il était seul, si c'était la seule donnée biblique sur le sujet, bon, eh bien j'admettrais que la trichotomie est plus probable. Oui. Seulement, c'est finalement l'unique texte à mettre réellement sur la balance en faveur de la trichotomie contre tous les autres. Et il y en a une belle multitude, comme vous avez pu vous en rendre compte. Et lorsque vous le lisez, vous pouvez reconnaître qu'il semble favoriser la trichotomie, mais qu'il ne l'impose pas. Il ne rend pas la trichotomie nécessaire, car il ne nous dit pas que esprit, âme et corps sont ici trois parties. Il dit la totalité de votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible à la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il emploie trois termes, mais il ne dit pas que ce soit trois parties. On peut le penser, mais on peut aussi ne pas le penser. Lorsque Jésus a parlé d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, il emploie plusieurs termes pour donner une grande force à cette parole, à ce commandement, mais il ne s'agit pas pour nous de diviser en quatre parties. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire, personne n'y pense. Il peut y avoir une accumulation de termes qui évoquent des aspects différents, chaque terme utilisé avec ses nuances propres, mais qui ne signifie pas nécessairement une division selon le nombre des termes. Et il me semble qu'ici, il est au moins plausible que ce soit le cas. Il ne dit pas que ce soit trois parties, et dans ce passage aussi, il semble accumuler les termes, c'est pas comme l'auteur aux Hébreux quand même, c'est pas aussi poussé, mais il semble, l'apôtre Paul semble accumuler les termes pour donner l'impression de totalité. Que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même tout entier, et que la totalité de votre être, esprit, âme et corps, soit conservée irrépréhensible. Il emploie déjà deux termes à peu près synonymiques, holotéleis et holoclérone, ce qui semble bien montrer que dans cette parole, qui est une parole de bénédiction, où le style devient plus ample, il cherche à accumuler les termes. Alors faire de ce texte un texte preuve pour une division triple, je crois que c'est abusif, que ça va bien au-delà. On peut le comprendre comme une évocation de l'homme dans ses trois relations principales. Il y a des nuances qui distinguent l'usage du mot âme et l'usage du mot esprit. L'être intérieur de l'homme est appelé plutôt âme dans les relations avec le monde, avec la vie naturelle, plutôt esprit dans la communication et dans la communication avec Dieu surtout. Alors, en employant ici ces termes, l'apôtre peut évoquer les grandes relations de l'être humain et selon lesquelles il doit être sanctifié. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois parties. Alors, ce texte est le seul qui pourrait peser quelque chose dans la balance en faveur de la trichotomie, mais il ne pèse pas assez pour faire pencher la balance de ce côté-là. On peut le comprendre autrement. Et je dirais que l'ensemble des autres textes est tout à fait déterminant. Alors il resterait, mais oui, j'ai quand même quelques minutes pour ça, il resterait à évoquer les arguments d'ordre théologique. Je le signale très très brièvement.
Je crois que l'argument théologique très très important, s'opposant à la trichotomie, c'est qu'on ne sait plus très bien où se trouve le moi humain avec la trichotomie.
Lorsque on dit que l'âme et l'esprit sont deux parties différentes, où se trouve le lieu de la responsabilité? Où se situe le je? Il semble nécessaire, pour qu'il y ait responsabilité personnelle, qu'il y ait une concentration de l'être intérieur, que cet être intérieur soit unifié. Si vous dites âme et esprit sont deux parties différentes, où se situe la responsabilité? C'est un grave problème, je ne vois pas résolu chez les trichotomistes, surtout de ce qu'ils disent.
Ceux-là, au fond, ils disent c'est l'esprit, parce que l'âme, pour eux, c'est une zone intermédiaire, un peu inférieure, comme une frange entre esprit et corps. Mais, en ce qui concerne la trichotomie mystique, c'est très grave. Si ce n'est pas l'âme qui est vraiment la partie essentielle de moi-même, et pourtant c'est l'âme qui a l'intelligence et la volonté, alors, comment suis-je responsable? Il y a comme une espèce de schizophrénie, une séparation de l'être intérieur qui pose là un problème sérieux. Et cela apparaît dans certaines conséquences, comme dans tous les auteurs, mais même dans d'autres parties. J'ai pu lire sur la pub, je crois, de PAS, que l'esprit ne péchait pas. L'esprit doit être libéré, mais il ne pêche pas. C'est très grave, c'est opposé à 2 Corinthiens 7, verset 1. Il dit qu'il s'agit pour nous de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Mais voyez à quelle tendance cela peut conduire. Donc il y a ce problème de l'unité intérieure qui semble indissociable de la liberté, de la responsabilité, du je, de la personne peut subsister avec deux parties d'intériorité séparées comme cela. Ça c'est un premier problème de type dogmatique. Un deuxième problème, c'est qu'on observe une tendance chez la trichotomie vers un certain panthéisme. Ce n'est qu'une tendance, mais je crois qu'on peut se l'expliquer. Parce que il s'agit donc à chaque fois d'élever l'esprit au-dessus. On trouve que dans la trichotomie, l'esprit est un peu trop bas. On veut élever l'esprit au-dessus de l'âme pour le rapprocher de Dieu. Alors, dans la trichotomie classique, je trouve une tendance vers un panthéisme rationaliste, comme dans le platonisme, où l'esprit intelligent est considéré comme une parcelle de l'esprit divin, de l'intelligence divine. Et alors, on juge que c'est trop élevé pour que les instincts et tout ça soient considérés comme de la même partie de l'homme. Ça, ce n'est pas biblique. Direction vers un panthéisme rationaliste. Dans le cas de la trichotomie mystique, eh bien, le fait que quelqu'un qui commence à lui dire que l'esprit est émané et non pas créé montre que le danger du panthéisme n'est pas loin. Vous voyez le danger? Et c'est logique, puisqu'on essaye de surélever l'esprit en quelque sorte pour le rapprocher de Dieu par rapport à ce qui est vie naturelle de l'homme. Je trouve là un autre danger.
Et finalement,
là, finalement, il me semble qu'en faveur de la dichotomie, cette fois, plutôt que comme critique de la trichotomie, on peut faire valoir que la dichotomie correspond bien à l'image du monde que la Bible nous enseigne. Alors que la trichotomie ne le fait pas. L'image du monde que la Bible nous enseigne, c'est celle d'une créature double, les cieux et la terre, les choses visibles et invisibles. Avec l'homme, créature terrestre, mais appelé à la communication avec le monde céleste, puisqu'il est en image de Dieu, et ainsi double dans sa constitution. Vous avez, dans le rapport donc, de l'homme au cosmos, une relation là normale. Ce n'est pas le dualisme de Platon. Parce qu'il ne s'agit pas de deux principes métaphysiques indépendants qui seraient par eux-mêmes, et qu'il faudrait donc que l'être de l'homme serait radicalement divisé entre âme et corps. Puisque tout vient de Dieu, toute la création vient de Dieu. Elle a aussi une unité, cette création. Les cieux et la terre forment une unité de la création de Dieu, de même l'esprit et le corps de l'homme forment une unité de la création de Dieu. Mais il y a à l'intérieur de cette unité une réelle dualité, une réelle distinction. Et l'homme, être en image de Dieu, participe de l'invisible et du visible, du ciel et de la terre. Il a mis dans leur cœur l'éternité, bien qu'il soit poussière. Voilà comment la structure de la création dans son ensemble se reflète dans la constitution de l'homme. Cela correspond à la dichotomie, ça ne correspond pas aux autres doctrines. Voilà. L'exposé est fini. Et maintenant, nous pouvons alors nous entretenir, si vous voulez, tel ou tel point, plus d'éclaircissement.
Moi, j'ai une question d'abord par rapport aux lectures correspondant à la trichotomie grecque. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Bon, Watchman est connu, la littérature est très grande. C'est le premier point. Et puis ensuite, à propos de cette trichotomie mystique classique, j'ai entendu le parallèle suivant. Comme quoi ces trois parties étaient la trace de Dieu dans l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit.
Ah oui, 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 oui.
Je dirais que c'est par égard pour les trichotomistes que je n'ai pas évoqué cet argument, mais je vais le faire quand même puisque vous m'y conduisez. Alors, en ce qui concerne le premier point, que faire des lectures, de Watchman en particulier, je crois que je dois dire deux choses. La première, c'est que Watchman Nee était un homme de Dieu, réellement, et qu'il a réussi, dans la sagesse spirituelle qui lui était donnée, à ne pas prolonger trop loin et de manière trop dommageable les conséquences de cette erreur. Je considère que c'est une erreur, et qu'elle a des conséquences néfastes, nocives, mais je reconnais que Watchman Nee a été modéré et n'a pas été trop loin à propos de toutes ces conséquences. Il a réussi, à l'aide de ce schéma faux sur l'âme et l'esprit, à faire passer une vérité authentiquement biblique. Bien des gens ont été amenés à faire confiance au Seigneur pour sa direction de leur vie, donc au Saint-Esprit, lorsqu'ils ont compris que, avec leur intelligence et leur volonté propre, ils s'étaient mis aux commandes et que c'était pour cela que les choses ne marchaient pas pour eux. Watchman Nee leur a dit en gros, et Théaïs aussi d'ailleurs, ce n'est pas l'âme qui doit gouverner dans votre vie, votre intelligence et votre volonté, il faut que vous abandonniez tout cela et que vous soyez guidés par l'Esprit. Alors il avait raison de leur dire que ce n'était pas leur intelligence et leur volonté à eux qui devaient les conduire. Et pour bien des gens, ça a été un déblocage. Et en fait, malgré le fait que leur doctrine est un peu là, obscurcie et tordue, ils ont laissé faire davantage le Saint-Esprit qu'ils ne le faisaient avant, et ça a été utile.
Alors, je crois qu'une erreur est toujours dommageable, mais enfin, Dieu se sert aussi des erreurs pour faire passer parfois des vérités. La vérité, c'était qu'ils ne devaient pas se conduire eux-mêmes. Ils étaient effectivement des chrétiens psychicoï, des chrétiens psychiques, selon les termes, qui se laissaient gouverner par leurs propres pensées. Et ça, il fallait bien le casser. Ça, c'est la première chose, donc, à dire. Ni a été modéré, et il a dit des choses utiles, même par le moyen de cette erreur. Deuxième point, attention, il y a eu des fruits, alors très amers, chez certains de ses disciples. Et j'ai lu en particulier, dans le magazine His, des GBU américains, qu'il y a eu une sécession du petit troupeau fondé par Watchman Nee en Chine, avec à sa tête un certain Witness Lee, L-E-E, qui, lui, a poussé cette trichotomie extrêmement loin, beaucoup plus loin, et qui est devenu carrément hérétique. Alors, je ne sais pas dans quel détail il a été poussé cette affaire, mais j'ai ces renseignements historiques qui montrent que cette erreur a quand même produit de mauvais fruits, pas immédiatement dans l'entourage de Watchman Nee, parce qu'il a été modéré, qu'il avait beaucoup de sagesse pour rééquilibrer les choses, mais quand même dans l'œuvre qu'il avait fondée. Ça, c'est donc pour l'usage à faire de ces auteurs. Je crois quand même que nos milieux évangéliques font une place trop grande et ont un accueil trop peu critique à l'égard des ouvrages de ces auteurs. Ils font du bien, beaucoup de gens, oui, qui étaient justement psychicoï, mais ensuite les fruits sont amers. Je l'ai observé dans mon église, nous avons eu un groupe qui nous a causé pas mal de problèmes, et puis finalement on est sorti. Il y a même eu une époque à Vaux-sur-Seine, une année qui a été extrêmement pénible, où un groupe d'étudiants, d'autres influences aussi en jeu, mais a été touché par là, et ça a produit une crise assez sérieuse pour toute l'institution. Et un des étudiants qui avait été pas mal touché à l'époque, on m'a dit l'an dernier, il est maintenant pasteur, il en est tout à fait revenu, il a, je crois, une doctrine parfaitement saine, eh bien il a de grands problèmes actuellement dans son église avec un groupe qui est influencé par ses pensées, cette trichotomie militante et cette trichotomie mystique qui facilement conduit à une espèce d'orgueil spirituel. Lorsque les gens disent « Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes psychique, vous laissez conduire par votre intelligence et votre volonté, votre intelligence dans la lecture de la Bible, c'est pas spirituel, c'est pas spirituel. » Et il n'y a aucun moyen d'argumenter. Le grand danger, le grand piège de cette position, c'est qu'une fois qu'on s'y est enfermé, c'est perdu. Parce que tout argument biblique qu'on oppose est immédiatement balayé, c'est pas spirituel. Les gens s'enferment en quelque sorte dans la position. Ils n'ont plus de contrôle, de vérification possible qu'ils sont dans la vérité. Puisqu'ils soumettent entièrement à cette inspiration de l'esprit leur lecture même de la Bible. Donc c'est quand même sérieux et je trouve que les chrétiens évangéliques n'ont pas été assez vigilants à cet égard.
Avant que Madame. Vous attendiez la deuxième question, j'aimerais savoir quelles peuvent être ces conséquences d'une
trichotomie. Alors les conséquences les plus évidentes sont d'une part une dépréciation du travail de l'intelligence dans la lecture biblique et du coup certains des hommes qui sont influencés par là peuvent brusquement se mettre à la remorque de n'importe quelle doctrine, n'importe quelle idée bizarre. Ils n'ont plus de contrôle. Alors il suffit que quelqu'un qui a un magnétisme suffisant parmi eux, qu'ils appelleront autorité spirituelle, ait une idée, la raccroche à un ou deux textes interprétés d'une manière non rigoureuse, mais prétendument spirituelle, pour qu'ils marchent. Ils n'ont aucun moyen de contrôle. C'est l'homme spirituel qui a dit ça. C'est l'esprit de jugement. C'est la tendance de ceux qui donnent dans cette trichotomie, je dis tendance déjà, je ne dis pas que tous y tombent, mais tendance à se prendre pour des super spirituels et à faire deux catégories de chrétiens, ceux dont l'esprit est libéré, puis ceux qui se marchent encore selon l'âme, pauvres chrétiens de seconde zone, n'est-ce pas? C'est là le très grand danger.
Mademoiselle. Ceux qui pensent être spirituels croient que ceux qui sont naturels n'ont pas l'esprit, ou bien je comprends pas ça.
Non, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas l'esprit, ils disent que l'esprit est comme opprimé par l'âme. Et il faut que l'esprit soit libéré. Alors libéré du contrôle qu'exerce sur lui l'âme. C'est là la pensée.
Je reviens à la question de tout à l'heure, mais ça a vraiment aucun rapport avec la théorie sur laquelle on retrouve une deuxième bataille.
Alors c'est vrai, je n'ai pas répondu tout à l'heure en fait. C'est vrai, je m'en aperçois maintenant. Je crois que ce courant est distinct. En fait, ce courant des trichotomistes mystiques, de TAS et de Watchman Nee, est plutôt critique à l'égard du pentecôtisme ou du néopentecôtisme. Il a certaines affinités, je ne le nie pas, mais comme souvent entre des mouvements très proches, des frères ennemis, si vous voulez, il y a des critiques extrêmement dures. En fait, je crois que dans la tendance charismatique, il y a parfois trichotomie de ce type, admise, mais ce n'est pas un élément clé, ce n'est pas un élément sur lequel on insiste beaucoup, en fait. Monsieur Fauche.
Dans les églises, je crois qu'il y a une réaction, disons, certains sont acharismatiques et se plantent là-dedans.
Oui, oui. Oui, je crois que ça existe vraiment. Je dirais que la tentation du côté pentecôtiste serait peut-être illuministe, alors qu'ici c'est une tendance à tentation plus mystique, dans la mesure où on peut avoir des nuances entre ces termes. Monsieur.
Pensez-vous qu'il y a un réel danger à la schizophrénie concernant la liste?
Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai employé ce terme pour suggérer l'idée de division intérieure, mais je crois qu'il ne se comporte pas du tout de manière schizophrène, mais plutôt qu'il refoule ce qui est de la vie de l'intelligence. Pratiquement. Mme Mazot.
D'après ce que vous croyez, il y a le corps et l'esprit qui forment un tout.
Oui, oui.
Donc, pour les chrétiens et les non-chrétiens, c'est la même chose. Mais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que quand on devient chrétien, notre esprit, notre corps est changé, transformé.
Ah, ben oui, mais au contraire, ça c'est très très important, oui, oui. C'est justement la vérité que, à mon avis, la théorie trichotomiste a comme caricaturée, vous voyez, déformée. Mais, bien sûr, dans la vie du croyant, il y a trois. Mais il y a deux parties de son être, et puis il y a le Saint-Esprit, qui n'est pas une partie de son être, mais qui est l'hôte divin de son existence. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, mais avec notre esprit. Les deux demeurent distincts.
Est-ce qu'on ne trouve pas ça dans la Bible, justement, quand tu commences à te voir la parole corinthienne, je suis plus de
l'histoire? Eh bien, dans 1 Corinthiens 2, comme je vous ai dit, le mot esprit est employé plusieurs fois pour le Saint-Esprit. Dans le cas de l'esprit de l'homme qui le connaît en lui-même, ça c'est l'esprit de l'homme. Ça, je crois qu'on est obligé de dire que c'est l'esprit au sens anthropologique. Mais pour Pneumatikos, l'homme spirituel, c'est l'homme qui a l'esprit de Dieu. C'est ça. Ah oui, tout à fait sûr. L'image n'est pas impossible, je pense qu'elle est comme toute image insuffisante, que sa personnalité, sa distinction ne sont pas assez mises en valeur par l'image de la greffe, parce que la greffe devient une partie de l'être de la plante à laquelle on l'ajoute, alors que le Saint-Esprit ne vient pas, jamais une partie de nous-mêmes. Il habite en nous, il nous conduit, mais il est distinct de nous, toujours. Nous sommes son temple, et non pas une annexe.
C'est là la réponse alors à cette trinité de Dieu dans l'homme.
Alors maintenant, le deuxième point, voilà, nous y arrivons. Certains trichotomistes, je veux quand même laver de l'accusation des trichotomistes en général à ce sujet, pense pouvoir utiliser l'argument de l'image de Dieu en l'homme en disant le Père correspond à l'esprit, le Fils à l'âme et le Saint-Esprit au corps. Et l'homme est image de Dieu en étant trois en un comme Dieu. Alors je crois que c'est vraiment là un argument détestable qui conduirait à des erreurs graves en matière trinitaire si on poursuivait. Je dirais que c'est pratiquement le contraire. Si je veux faire une analogie, sous prétexte qu'il y a 3 et 1, c'est là tout à fait boiteux. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes. Voilà la vérité qui les constitue, c'est 3 personnes. Or, justement, l'esprit, l'âme et le corps ne font qu'une personne, dans la théorie trichotomiste. Hein, j'admets pour le moment, pour vous montrer que l'analogie vraiment ne peut pas jouer le schéma trichotomiste. De toute façon, ça ne ferait qu'une personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont absolument indivisibles, sont un seul être qu'il est interdit de diviser, même en pensée. C'est un seul être absolument. Or, l'esprit et l'âme et le corps sont justement désignés comme 3 parties dans le schéma trichotomiste. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont surtout pas 3 parties de Dieu. Quand on dit ça, on est dans l'hérésie. Le Père est Dieu pleinement et totalement, le Fils est Dieu pleinement et totalement, le Saint-Esprit est Dieu pleinement et totalement, et il y a un seul Dieu. Voilà l'affirmation trinitaire. Et sans ça, c'est un blasphème horrible. Bon, alors voyez, déjà, ça ne colle pas du tout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont entièrement égaux dans la divinité. L'esprit, l'âme et le corps, dans le schéma trichotomiste, sont au contraire, selon une hiérarchie, c'est très manifeste. Vraiment, ça colle sur aucun point. Alors, utiliser cet argument, c'est je crois, tout à fait détestable, comme je l'ai dit. L'image associée à la Trinité, qui, d'ailleurs, elle n'est pas révélée en clair, pas non plus trop s'y attacher, peut-être, mais qui est meilleure, c'est celle de Saint-Augustin, qui trouve l'image de Dieu dans l'esprit de l'homme, qui est mémoire, intelligence et volonté. Et là, il y a une correspondance avec Père, Fils et Saint-Esprit qui est beaucoup meilleure. Mémoire, intelligence et volonté, bien sûr, ne font pas 3 personnes. Ça, c'est là que la comparaison est boiteuse. Mais c'est un seul être. C'est justement le seul et unique être intérieur de l'homme. Avec ses 3 composantes qui restent distinctes et qui pourtant s'impliquent mutuellement. Il n'y a pas de mémoire sans intelligence, d'intelligence sans mémoire, de volonté sans intelligence, etc. Il subsiste entre mémoire, intelligence et volonté un ordre, comme entre les 3 personnes, mais dans l'égalité. C'est une analogie de la Trinité qui est bien meilleure. Si on veut vraiment trouver dans l'anthropologie une analogie trinitaire, c'est celle-là qu'il faut prendre, et qui peut avoir quelques soutiens critiques dans la mesure où l'intelligence, c'est le logos, et que le logos est un titre pour le Fils dans la Trinité, et où la volonté exprime ce mouvement dynamique que le mot esprit lui-même peut évoquer aussi. Alors, disons qu'il y a quelques traces dans l'écriture qui pourraient favoriser le schéma de Saint-Augustin, donc mémoire, intelligence, volonté. Monsieur Cayol, Monsieur Herzog et Monsieur Romerowski.
Testament. Où il est écrit, si Dieu retirait son esprit, toute chair qui est venue mal. Pour concevoir comment à ce moment l'esprit, puisque comme c'est justement c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie, à ce moment c'est vraiment distinct.
Oui, alors là, je pense que c'est l'esprit de Dieu qui est en cause, mais l'esprit de Dieu en tant que soutien dans l'être. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui c'est le Dieu trinitaire. Et je pense que c'est particulièrement son esprit qui donne à la créature consistance et disons qu'il la tient au-dessus du néant. Je ne sais plus où se trouve exactement le verset que vous citez. Le psaume 104 a un texte très proche. Je ne sais pas le psaume 104 que vous citez, mais tu leur reprends le souffle, ils expirent. Hein, verset 29 du psaume 104. Mais je n'ai pas. Non, il n'y a pas la référence. Il n'y a pas la référence du texte auquel vous faites allusion. Je ne me rappelle plus où il se trouverait, mais enfin, je trouverai dans la concordance. Bon, M. Herzog.
Je vais vous demander juste comment on peut comprendre alors la phrase de Paul quand il dit je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je veux. Alors je fais ce que je veux,
Oui. Alors je ne pense que c'est... Il n'y a rien dans le texte qui suggère une distinction entre âme et esprit. Je crois que ce que Paul exprime ici, c'est le paradoxe du servage du péché, de l'asservissement au péché, du serf-arbitre, comme disait Luther. Dans le péché, c'est là l'aliénation du péché, nous agissons et pourtant, nous ne sommes pas libres. Nous sommes en un sens libres, puisque c'est notre acte que nous le posons et que Dieu nous en tient pour responsable, mais en même temps, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et nous savons bien, nous voudrions même une velléité avec nous, une espèce de volonté trop faible qui est là, qui voudrait nous éloigner du péché, puis pourtant nous sommes asservis. Voilà l'expérience qu'il décrit, c'est ce paradoxe du serf-arbitre dans le péché. Alors je vous signale que sur l'interprétation de l'ensemble de ce texte, il y a un article dans Zictus que j'ai écrit il y a quelques années sur Romains 7, l'homme divisé selon Romains 7. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire au-delà cet article-là. Bon, monsieur Romerovski.
Qu'est-ce que c'est que le corps spirituel de la résurrection par rapport à l'esprit, hein?
Oui. Alors, donc entre âme et esprit, dans ce passage dans Corinthiens 15, Paul fait une différence selon les connotations. Connotations, les nuances associées aux termes. Le âme évoque l'être intérieur selon son mode de vie naturel lié à la terre, et le mot esprit évoque ce même être intérieur dans son pouvoir de communication, de rayonnement et dans sa liberté, pourrait-on dire. Alors il me semble que corps psychique signifie un corps adapté au mode de vie naturel qui était celui d'Adam, et que corps spirituel signifie un corps adapté à ce mode de vie plus agile, plus libre, dans la communication avec Dieu, qui est le nôtre comme esprit. Ça ne veut pas dire un corps qui soit fait d'esprit, pas plus que le corps d'Adam était fait d'âme, ce n'est pas l'étoffe du corps qui est en cause ici, c'est son adaptation à un mode de vie naturelle ou vie surnaturelle de communication avec Dieu. Voilà ce que le mot esprit évoque dans ce contexte. Et c'est le corps de Jésus ressuscité qui est le corps spirituel à l'image duquel sera le nôtre. Voilà comment je comprends ce texte. Bon, nous arrivons assez près de l'heure du repas. Vous avez bien tenu tout le monde aussi. Jusqu'à présent.